émission expert, Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bonjour la planète, une émission en partenariat avec la fondation Good Planet, dans laquelle j'ai l'immense plaisir d'accueillir des personnes qui travaillent à la préservation du vivant et de la planète. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés en studio Sophie Nouchet, co-autrice du livre Cap 2030, une décennie pour changer le monde, agissons au présent, et journaliste indépendante. Mathieu Sanchez, l'un des 150 citoyens qui a été tiré au sort lors de la Convention citoyenne pour le climat, et Florent Manelli de la Fondation Good Planet, qui est également illustrateur et auteur du tome 1 et du tome 2, 40 LGBT+, qui ont changé le monde, aux éditions Lapin. Bonjour à tous les trois, merci infiniment d'être avec nous. On va commencer dans quelques instants, mais avant, jingle.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bonjour Sophie Nouchet, bonjour Mathieu Sanchez, bonjour Florent Manelli. Je vous laisse répondre à ce bonjour avant d'entamer cette émission.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, je check, vous êtes bien en ligne en même temps, c'est parfait. Alors, Mathieu Sanchez, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Je voudrais que l'on parle, donc je le disais, hein, vous êtes l'un des 150 citoyens tirés au sort lors de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous voulez bien, dans les grandes lignes, nous rappeler très brièvement ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat pour les gens qui ne savent plus très bien ?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 Français tirés au sort parmi 250 000 numéros de téléphone. L'objectif était de reconstituer une mini-France, donc on vient tous de régions différentes, de classes sociales différentes et de niveaux d'études différents. On a aussi des tranches d'âge, ça allait de 16 ans à 82-3 ans. Et l'objectif était vraiment de rassembler un maximum d'opinions différentes pour pouvoir réfléchir à des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moins de 40% d'ici 2030.
Alors évidemment, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu un point clé en juin dernier, hein, si je ne dis pas de bêtises, où Emmanuel Macron a rendu public les 146 mesures qu'il acceptait sur 149. Vous confirmez tout ça, Mathieu Sanchez ?
C'est exactement ça, et 146 mesures ont été retenues, 3 ont été directement mises de côté, et le reste était censé être transmis sans filtre au Parlement. Entre-temps, on travaille énormément et on s'aperçoit que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Alors on va y revenir bien évidemment en terminant cette émission pour voir un petit peu l'évolution au fond de cette Convention citoyenne pour le climat et comment ça a été reçu par le gouvernement. J'ai une question concernant les mesures, peut-être les mesures phares qui ont été à la fois proposées et on verra après acceptées ou non par le gouvernement, mais en tout cas les mesures phares que vous avez proposées, vous évidemment et vos compères, si je puis dire, dans la Convention citoyenne pour le climat.
Alors la Convention a travaillé de manière un petit peu systémique. C'est vrai qu'on a énormément de mesures qui sont liées les unes aux autres. Si on doit vraiment ressortir quelques-unes qui sont un petit peu plus marquantes, on va dire, je pense que c'est celle d'ailleurs qui est en négociation et en discussion, c'est la notion de crime d'écocide qui justement a été revue sous forme de délit d'écocide. Mais ça, elle fait partie justement des mesures vraiment les plus structurantes. Et puis tout ce qui va concerner aussi l'artificialisation des sols et la rénovation thermique qui sont des énormes chantiers. Puis après tout ce qui va aussi concerner l'évolution du milieu industriel et du milieu automobile, entre autres.
Alors très concrètement, hein, parce que d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'on peut se poser la question, en quoi consiste et a consisté depuis un an et demi, on va dire, votre travail au sein de cette Convention citoyenne pour le climat ? Qu'est-ce que vous faites toujours aujourd'hui ?
Alors en fait, au départ, on est le début de la Convention, ça a été aussi une prise d'information, puisqu'on n'était pas tous concernés par les enjeux climatiques. Parmi nous, on avait des gens tout à fait... des citoyens tout à fait sans être péjoratif basique, hein, c'est-à-dire sans avoir forcément fait des recherches énormes autour du climat, et puis on avait aussi parmi nous des climato-sceptiques, donc on avait aussi cette base d'informations très importante et qui a été, ça c'est important pour moi, c'était une information sur des données scientifiques, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de discuter avec des ONG, mais au départ ça a été vraiment un point de vue scientifique, donc des choses vraiment très factuelles. Et puis par la suite, on a eu l'occasion de rencontrer énormément d'intervenants de tous les milieux professionnels et associatifs, donc qui nous ont permis de poser nos réflexions par rapport à des mesures. Et ces mesures-là, on les a réfléchies, travaillées avec un comité légistique pour qu'elles puissent être traduisible le plus possible sous forme de texte de loi et de pouvoir travailler là-dessus de manière vraiment temporelle aussi. Donc du coup, on a travaillé toutes ces mesures-là par 5 groupes de travail autour du logement, autour de la de consommer, produire et travailler, se déplacer et se loger. Et à partir de là, on a créé tout un panel de mesures, donc 146 retenues. Et ces mesures-là, maintenant, ensuite, on les a votées entre nous pour les valider. Et ensuite, maintenant, on les défend au quotidien auprès du grand public et auprès aussi de tous les intervenants possibles, que ce soit le milieu industriel, les ministères, pour faire comprendre le message. Nous, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas nos mesures, on les défend, on les explique. Voilà, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis bientôt 6-7 mois.
Alors, je reviens juste sur un point que vous avez précisé il y a quelques minutes, sur le fait qu'au sein donc de ces 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, il y avait donc plusieurs, j'imagine, vous n'avez pas précisé, mais climato-sceptiques. Est-ce que ça les a transformés? Est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui climato-sceptiques?
Non, clairement, ça a été pour eux, je pense, encore plus que pour nous, une véritable claque, le discours qu'on a eu de Valérie Masson-Delmotte d'entrée dès les premières sessions.
Est-ce que vous voulez
clairement, les climato-sceptiques sont revenus sur leur position et ont bien compris que l'homme avait quand même une influence considérable sur l'évolution du climat. Donc non, clairement, maintenant, ils font partie même de ceux qui portent le plus haut l'étendard de la Convention.
Alors Sophie Nouchet, on va maintenant parler de votre livre. Je rappelle que vous êtes co-autrice du livre Cap 2030, une décennie pour changer le monde, et journaliste indépendante. Alors ce livre, vous l'avez co-écrit avec Julien Leprouveau pour la fondation Good Planet. Et je voudrais donc évidemment qu'on en discute. La première question, elle est simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre?
Alors en fait, deux choses. D'une part, c'est que c'était une expérience citoyenne totalement nouvelle. Jamais dans notre pays il n'y avait eu comme ça des citoyens tirés au sort et amenés à discuter sur un an en plusieurs sessions d'un problème aussi important. Et moi, ça m'intéressait, ça, la démocratie participative, parce que c'est une manière de réveiller un peu nos institutions, de faire évoluer la façon de décider dans notre pays. Ça s'était déjà fait ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, en Irlande par exemple, concernant le droit à l'avortement, mais jamais en France. Et puis évidemment, le sujet du réchauffement climatique était aussi passionnant, et voir les citoyens s'en emparer, c'était quelque chose de passionnant, parce qu'on vit quand même une époque, une période charnière, hein, soit on s'y met vraiment maintenant, soit ce sera trop tard. Et moi, je pensais vraiment que les citoyens, une fois bien informés des enjeux, pouvaient prendre des décisions intéressantes et aller plus loin que nos élus, et pouvaient, eux, se mettre à la hauteur des enjeux, exactement d'ailleurs ce que le président leur avait demandé, et c'est ce qu'ils ont fait. Quand on a, à la lecture de leur rapport, on voit bien que c'est ce qui s'est passé.
Alors comment est-ce que très concrètement vous vous êtes réparti le travail? Ça doit être difficile de coécrire un livre. Moi, je voudrais bien savoir quels ont été les sujets que vous avez traités et ceux que Julien Leprouveau ont traités.
Alors en fait, le livre est constitué de deux parties. Au début, on explique vraiment comment fonctionne la Convention, comment elle est née, parce que, comme je vous le disais, c'est quelque chose de très nouveau. Donc on essaie d'expliquer au lecteur comment ça s'est passé, hein, des premiers coups de téléphone aux personnes qui ont été tirées au sort, hein. Jusqu'au vote du rapport final. On a essayé, en interviewant des conventionnels et aussi en regardant les débats qui sont tous visibles sur Internet, hein, sur le site de la Convention citoyenne, de comprendre comment ça s'est passé. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, la Fondation Good Planet s'est arrêtée sur quelques dizaines de mesures parmi celles qui nous semblaient très intéressantes, pour un peu les décortiquer, voir en quoi elles consistent, quelles implications elles auraient et quelles conséquences elles auraient surtout pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est un livre en deux parties. D'abord le fonctionnement et ensuite la mise en avant de dizaines de mesures.
Alors quelle est l'ambition de ce livre et à qui s'adresse-t-il? Est-ce que le but, j'imagine, c'est de sensibiliser à tous ces sujets-là?
Oui, le livre s'adresse à toutes les personnes qui sont curieuses à la fois du mécanisme nouveau de démocratie collaborative et aussi qui sont curieuses de voir un peu dans le détail le travail qu'ont fait les conventionnels, hein, pendant plus d'un an, et de voir le fond des propositions. On en entend beaucoup parler, des propositions, dans les médias, mais on entend surtout parler de ce que les ministères veulent en faire, hein, qui est souvent revue à la baisse. Et ça peut être intéressant quand même de se plonger dans les propositions telles qu'elles ont été vraiment proposées, de voir un peu le fond de ces propositions et comment aussi les légistes ont pu expliquer comment elles étaient réalisables. On entend souvent que c'est pas possible, enfin que qu'il faut un peu être réaliste. Bah, les conventionnels ont été réalistes. Hein. Ils ont les propositions ont toutes été faites dans un esprit de justice sociale. C'était écrit sur la feuille de route. Et aussi les légistes les ont aidés à voir comment elles pouvaient être appliquées dans le droit français. Donc c'est intéressant de se replonger vraiment dans le tout début et de ces propositions.
Alors, on va revenir hein, tout à l'heure sur cette Convention citoyenne pour le climat et, comme vous le disiez, sur cet esprit de justice sociale. Sophie Nouchet, Mathieu Sanchez, restez avec nous. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM. On poursuit nos échanges avec mes invités. Sophie Nouchet, co-autrice du livre Cap 2030, une décennie, pour changer le monde. Et journaliste qui est également journaliste indépendante. Et Mathieu Sanchez, qui est l'un des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, que l'on appelle donc conventionnel, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, Mathieu ?
Oui.
Ok. Alors, on était donc, comme je viens de le dire, en train de parler de la Convention citoyenne pour le climat. Et Sophie Nouchet, on était en train de parler de votre livre et de votre travail pendant plusieurs mois pour écrire ce livre. Ma question est la suivante. Vous avez fait donc un certain nombre d'entretiens auprès des conventionnels, entre autres, mais aussi de l'équipe de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé en particulier lors de ces entretiens?
Oui, effectivement, j'ai été frappée par l'enthousiasme qu'ils ont mis. Il y a eu très peu d'effection au tout début, parmi toutes les personnes qui ont été choisies. Il y a eu un véritable enthousiasme. Ils ont endossé les habits de citoyens avec beaucoup de volonté. Ils se sont sentis responsables très vite. Et puis, ce qui a été frappant après deux ou trois sessions, c'est le niveau d'expertise qu'ils ont réussi à acquérir. Après les auditions de plusieurs scientifiques, hein, Mathieu Sanchez parlait de Madame Masson-Delmotte, hein, qui est paléoclimatologue et qui a fait effectivement une introduction qui a marqué les esprits. Les conventionnels ont très vite appris énormément de choses dans tous les domaines, l'alimentation, les transports, la rénovation des bâtiments. Et ils sont devenus vraiment capables de formuler des propositions. Et ça, c'était frappant et c'était très enthousiasmant de voir que le temps et l'information permettaient de comprendre et de formuler de bonnes propositions.
Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'ils ont autant joué le jeu? C'est le côté d'endosser d'un coup un rôle important, j'imagine?
Oui, parce que je pense que habituellement, quand on est citoyen, on se limite à avoir le droit et le devoir de voter, en fait. Et puis après, on remet tout entre les mains des hommes politiques. Là, c'était différent. On leur a donné un pouvoir en plus, un statut, une grande responsabilité. Et c'était une manière de faire revivre la démocratie. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu, même en étant extérieur, en écoutant les débats, en les voyant discuter. C'était formidable de voir que la démocratie pouvait être vivante et aussi qu'elle pouvait fonctionner bien sans les pressions que peuvent subir les hommes politiques. Voilà.
Alors, vous le disiez, hein, c'est l'une des plus grandes expériences de démocratie participative, en tout cas en France. Comment est-ce que concrètement, de ce que vous avez pu voir en tant qu'autrice et donc observer d'un point de vue extérieur, comment est-ce que ça, la magie a opéré et 150 personnes qui viennent d'horizons extrêmement différents se sont mis en ordre de marche, si je puis dire, vers un projet commun? Comment est-ce que ça a fonctionné?
Alors, ça a été très rigoureux. C'est tout un cadre qui a été mis en place au Conseil économique et social à chaque session. Il y avait un comité de gouvernance qui était co-présidé notamment par Laurence Tubiana, hein, la présidente de la Fondation européenne pour le climat et qui a aussi mené l'accord de Paris en 2015. Il y avait des garants, dont Cyril Dion, qui s'est beaucoup exprimé dans les médias. Il y a eu au début donc tout un tas d'intervenants, des scientifiques, mais des chefs d'entreprise aussi, des syndicalistes, des élus locaux. Et puis il y avait des animateurs qui étaient des spécialistes du dialogue citoyen qui veillaient à ce que dans chaque groupe la parole circule, les gens s'écoutent les uns les autres et que les débats avancent. Donc tout était en fait très structuré pour permettre à chacun d'exprimer ses positions et aux décisions d'émerger.
Alors, Je vous laisse complètement libre, Sophie ou Mathieu, de savoir qui va répondre à cette question. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel de l'ordre chronologique de ce qui s'est passé, des points d'étape, on va dire, principaux depuis le démarrage de cette Convention citoyenne pour le climat. Donc, on le disait, il y a eu le tirage au sort. Ensuite, évidemment, pas mal de mois de travail sur les mesures très concrètes à proposer au gouvernement. On le disait tout à l'heure, si je comprends bien, en juin, de mémoire, le 29 juin, il y a eu donc 150 mesures qui ont été, 149 mesures. Parmi les 149 mesures, Emmanuel Macron et le gouvernement en ont sélectionné 146. Quels ont été depuis juin les différents points d'étape et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la Convention citoyenne pour le climat et des mesures ?
Actuellement, depuis le mois de juin, en fait, nous, les membres de la Convention, on est constitués en association justement pour continuer de porter nos mesures. Et depuis, en fait, on accompagne énormément ces mesures auprès des ministères et des différents intervenants. On multiplie les rencontres, que ce soit avec le monde de l'aérien, de l'industrie automobile ou après aussi tout ce qui va concerner le milieu des architectes et compagnie. Et l'objectif pour nous est réellement d'expliquer le raisonnement qu'il y a derrière nos mesures, puisque très souvent, on a face à nous des gens qui n'ont pas forcément... ils ont lu le rapport final, mais sans forcément avoir exactement le déroulé, la compréhension du processus. Donc du coup, on les accompagne énormément. Et depuis, on se voit à peu près tous les mois avec le ministère de la Transition, qui nous font des points d'étape par rapport aux avancées de nos mesures. Et là, on attend concrètement le projet de loi qui doit arriver, qui est sorti vendredi dernier et qui doit maintenant être présenté à l'Assemblée début février, normalement.
Alors, vous avez, comme vous l'avez dit, vous êtes réunis sous forme d'une association qui, si je ne me trompe pas, s'appelle les 150. Quel est le but de cette association, au-delà de on l'a bien compris, de prendre les citoyens par la main par rapport à vos mesures, mais vous ne pouviez pas continuer, évidemment, autrement qu'en association ?
C'était assez compliqué parce que c'est vrai qu'on s'était dit, on s'est posé la question si comment on pouvait continuer notre travail, et effectivement le fait d'être constitué en association, ça nous permet aussi d'avoir un certain poids et puis une parole unifiée, on va dire, et donc ça n'empêche pas les initiatives sur chaque territoire, mais c'est vrai que pour pouvoir assurer le suivi auprès des ministères, c'était intéressant qu'on soit structuré pour pouvoir présenter et défendre nos mesures de manière concrète et réfléchie, organisée. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de monter l'association. Et cette association a une durée de vie, on va dire, assez éphémère. L'objectif est réellement de faire atterrir nos mesures, et par la suite, peut-être que l'association restera un peu comme une association d'anciens combattants, mais l'objectif réel de cette association est de suivre nos travaux, et je pense même que certains ministères ne s'attendaient pas à ce qu'on ait ce suivi jusqu'à présent. Donc voilà l'objectif de l'association réellement.
Alors il y a une actualité bien évidemment récente, c'est que le gouvernement a dévoilé vendredi dernier le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que vous, Mathieu Sanchez, à titre personnel, mais au nom aussi du collectif des 150 citoyens tirés au sort, vous de quel œil est-ce que vous voyez ce projet de loi ?
Je vais commencer par la version le verre à moitié plein, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ce sera une avancée par rapport à la politique de transition qui était jusqu'à présent très 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 faible. Donc quoi qu'il se passe, ça sera une évolution. Maintenant, le verre à moitié vide, la plupart de nos mesures ont été quand même revues à la baisse. Et voilà, moi j'ai fait partie du groupe Se Déplacer. Sur les 46 mesures qu'on a proposées, on a fait justement un petit point d'étape entre nous. Clairement, on a 4 à 5 mesures qui ont été réellement transmises sans filtre. Les autres ont toutes été plus ou moins édulcorées. Alors après, certaines, vu la crise économique et sanitaire qu'on connaît actuellement, on savait qu'il fallait peut-être revoir la temporalité. Donc on peut comprendre sur certains points, mais il y a énormément de mesures qui ont été clairement dévalorisées. Et donc on va continuer de les défendre et d'essayer d'obtenir quelque chose, surtout pour celles qui ont vraiment disparu des radars pour le coup. Donc on attend un petit peu pour déclencher une réunion avec le ministère de la Transition et faire le point sur ces mesures qui ont un peu disparu pour voir si elles vont réapparaître à un moment donné.
Alors, on y reviendra dans quelques instants. Sophie Nouchet, votre livre, du coup, évidemment, s'inscrit dans un contexte, une fois de plus, bien particulier. Hein, comme je viens de le dire, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat qui vient d'être dévoilé par le gouvernement vendredi dernier. Est-ce qu'au fond, votre livre, il a aussi pour ambition de rappeler au gouvernement de tenir ses engagements?
Oui, tout à fait. Ce livre, il a été écrit comme un soutien aux travaux de la Convention citoyenne. Parce que les mesures proposées nous semblent ultra pertinentes et qui serait urgent de les mettre en place. Il faut quand même rappeler que leur feuille de route, c'était réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Et depuis, en décembre, hein, les objectifs au niveau européen sont passés à une réduction de 55%. Donc c'est dire s'il y a une véritable urgence et si on est face à un défi, il faut vraiment faire les choses, être ambitieux. Et les mesures de la Convention sont ambitieuses. Voilà, nous, c'est cette ambition qu'on défend dans ce livre.
Alors, on va reparler, bien évidemment, de ces mesures et de ce projet de loi, hein, issu de la Convention citoyenne pour le climat dans quelques instants. En attendant, une page musicale sur Vivre FM. Restez avec nous.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM. On poursuit nos échanges avec mes invités Mathieu Sanchez, qui est l'un des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, et Sophie Nouchet, co-autrice du livre Cap 2030, une décennie pour changer le monde, et qui est également journaliste indépendante. Alors, on était bien évidemment en train de parler de la Convention citoyenne pour le climat, et plus précisément du projet de loi qui a été dévoilé par le gouvernement vendredi dernier, ainsi que donc des mesures, hein, qui ont été présentées à différents moments par les conventionnels. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que le gouvernement, finalement, fait beaucoup d'effets d'annonce autour de la Convention citoyenne pour le climat, mais qu'in fine, il piétine quand même pas mal, hein, ces mesures dans les faits. Est-ce que c'est exactement comme ça que vous le percevez tous les deux, Sophie Nouchet?
Oui. Les mesures sont quasi systématiquement retoquées et revues à la baisse, en fait. Le fond du problème, c'est quand même qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il faudrait revoir un fonctionnement entier. Il faudrait remettre à plat l'organisation de secteurs entiers et partir sur de nouvelles bases. Or là, on prend c'est quelque chose que le gouvernement ne se résout pas à faire. Par exemple, si on prend l'exemple des transports, il faudrait changer et revoir un peu comment faire fonctionner ensemble l'aérien, le ferroviaire, le routier. Et on arriverait à ce moment-là peut-être à prendre des mesures vraiment importantes comme celles proposées par les conventionnels, hein, qui disaient plus de vols aériens, plus de vols intérieurs si on peut faire un trajet par le train en moins de 4 heures. C'est une mesure qui a été retoquée. Le gouvernement a dit « Ah non, finalement, on va passer à 2h30 ». Le malus pour les véhicules aussi, qui devait concerner les véhicules de plus de 1 tonne 8, il s'est passé. Et 1 tonne 8, a dit le gouvernement, c'était 1 tonne 4, ce que proposaient les conventionnels. Il y avait un forfait de mobilité durable aussi qui était mis en place. Et pour tous les citoyens, le gouvernement, l'a dit « Ok, mais pas pour tout le monde ». Donc en fait, à chaque fois, on recule et on évite une véritable remise à plat. En disant que c'est la crise économique et qu'il faut préserver les secteurs. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est pas les préserver, c'est véritablement les transformer, véritablement les faire évoluer pour essayer d'atteindre ces objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Mais ça, le gouvernement, il le savait en amont, bien avant même, hein, j'imagine, cette Convention citoyenne pour le climat. Comment ça se fait, au fond, que aujourd'hui, ils ne soient pas en capacité de mettre en place concrètement ces mesures, puisqu'au fond, ils savaient très bien qu'il allait y avoir une réorganisation nécessaire de tout un tas de secteurs.
On peut penser qu'il y a le poids des lobbies. Si on prend l'exemple de l'écocide, on voit bien que dans les ministères, le ministère de Barbara Pompili, et puis celui d'Éric Dupond-Moretti, il y a sa bataille, quoi. Et les lobbies interviennent, le MEDEF, France Industrie, à chaque fois les secteurs défendent leurs intérêts. Eux, on peut supposer qu'ils n'ont pas d'intérêt à bouger immédiatement et qu'ils ont aussi peur de ce que va être l'avenir s'ils se transforment radicalement. Donc en fait, tout est revu à la baisse pour essayer de préserver les intérêts économiques à court et à moyen terme. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter à 10 ou 20 ou 30 ans et à être vraiment, vraiment très ambitieux. Pourtant, c'est ce que le président avait demandé au conventionnel et voilà. Mais après, il y a la réalité du fonctionnement des institutions telles qu'elles fonctionnent depuis des décennies, hein, et du poids des lobbies. Ils étaient absents des discussions avec les conventionnels. En tout cas, pas aussi présents. Et là, dans la réalité, ils reviennent à la charge et avec leur poids énorme.
On a un peu l'impression, malgré tout, hein, d'un point de vue extérieur, que le gouvernement, au fond, se moque un petit peu de tout ça, puisque de la même manière, il savait très bien, au fond, que le poids des lobbies, le gouvernement, ce sont donc des politiques qui ont l'habitude, ils savent très bien qu'il y a les lobbies en face qui vont bloquer tout un tas d'accès. Est-ce que, Mathieu Sanchez, c'est comme ça que vous l'avez vécu également au sein de la Convention citoyenne pour le climat?
Bah, c'est vrai que je pense sincèrement que l'ampleur du rapport et du travail qui a été fourni n'était pas attendue. Je pense sincèrement qu'ils avaient en tête qu'on allait sortir une dizaine de mesures en tout et pour tout. Et là, le fait d'avoir eu un travail beaucoup plus complet, ça les a certainement un petit peu dérangés dans l'organisation. Après, il faut bien comprendre par rapport, par exemple, à l'industrie automobile, qu'on a eu l'occasion de rencontrer énormément d'intervenants de ce secteur-là, qu'on a posé des délais, justement, après ces discussions pour qu'on puisse avoir quelque chose d'acceptable et où, justement, parce que nous, on n'oublie pas non plus que derrière l'industrie, c'est aussi des citoyens. Et on sait très bien, malheureusement, que quand il y a des difficultés financières, ce sont souvent les employés et donc les citoyens qui sont en première ligne. Donc nous, on avait pris en compte cet aspect-là, toujours dans l'esprit de justice sociale. Et donc, nous, ça a été une déception, puisque pour nous, en tout cas, on avait réfléchi justement sur des délais qui étaient acceptables et qui avaient été discutés avec les acteurs. Donc c'est vrai que là-dessus, on comprend qu'effectivement, on puisse être amené à décaler d'un an ou deux, puisque là, on traverse une période vraiment particulière. Mais de là à retoquer systématiquement chacune des mesures, effectivement, ça a été assez compliqué. On a eu des réunions, effectivement, face au lobby, assez impressionnantes. On s'est retrouvé des fois à quatre citoyens et deux experts qui soutenaient nos travaux face à une cinquantaine de représentants du lobby aérien, par exemple. Donc, ça a été des moments assez assez compliqués et effectivement c'est d'où l'intérêt d'avoir été en association, ce qui nous a permis de continuer à être unis et à pouvoir défendre nos travaux. Mais effectivement on est forcément un petit peu déçus de voir maintenant comment tout est en train d'être détricoté. Au sein de l'association, on a une section justement dédiée à l'international et à l'européen, parce qu'on savait très bien que certaines de nos mesures avaient besoin d'être portées au niveau européen, non pas de manière logistique, mais de manière simplement économique. Donc nous, on est là, on est prêts à travailler avec l'Europe, mais malheureusement, nos interlocuteurs dans les ministères ne nous laissent pas cette opportunité.
Oui, parce que finalement, on a affaire à des citoyens qui se retrouvent face à des professionnels de la politique, et puis même encore bien au-delà, si je comprends bien, hein, face au système. Donc en fait, on parle de changer le système et le fonctionnement même du système. Est-ce que, selon vous, alors peut-être pas vous seulement, les 150, mais est-ce que les citoyens, finalement, peuvent peser dans la balance face au gouvernement, mais aussi, donc une fois de plus, au système?
En fait, pour moi, la question, elle devrait pratiquement même pas se poser, puisque quelque part, on est représentatif de la population. Alors après, effectivement, avec tous les débats qu'il peut y avoir autour, est-ce que 150 personnes, ça suffit ou pas pour représenter toute une population? Mais en tout cas, on s'attendait pas forcément à avoir un tel accueil de nos mesures. On s'attendait à ce qu'on puisse quand même apporter quelque chose. Et c'est, à mon avis, à mon sens, c'est une véritable erreur de la part du gouvernement, puisqu'on n'arrête pas de voir ces derniers temps des mouvements sociaux pour tous les sujets justement qui sont compliqués. On a eu les gilets jaunes, on a eu des grèves sur les retraites, on a eu des mouvements aussi par rapport aux violences policières, on a des mouvements par rapport aussi au pouvoir d'achat. Bref, on a tellement de choses qui sont en train de se passer qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a une cassure entre les gens qui décident et les citoyens. Et là, la participation citoyenne, justement, est peut-être ce trait d'union qui va devenir indispensable. Donc le mépriser, comme c'est le cas actuellement, malheureusement, ça n'envoie pas du tout les bons signaux. Et on va encore se retrouver avec des gens élus, avec des taux d'abstention phénoménaux et des gens qui sont du coup censés représenter les citoyens mais qui finalement ne représentent pas tant de personnes que ça. Et donc on va continuer à avoir cette espèce de défiance par rapport aux politiciens.
Sophie Nouchet, vous qui avez passé beaucoup de temps auprès de ces conventionnels ces derniers mois, est-ce que vous avez senti cette frustration ?
Bah oui, d'autant plus forte qu'il y avait un très grand enthousiasme et que vraiment ils se sont investis. Faut quand même imaginer que la première session a eu lieu il y a plus d'un an maintenant. Ils se sont rencontrés tous les deux mois à peu près, et entre chaque période, ils se documentaient, ils continuaient à discuter entre eux. Il y avait des débats, ils discutaient par internet. Enfin, ils se sont vraiment très très impliqués. Ils ont vraiment joué le jeu. Donc voilà, le président en plus a répété plusieurs fois que les propositions seraient reprises sans filtre. Ensuite, il a un peu rétro-pédalé en disant « mais attendez, il y aura des discussions, c'est comme ça que la démocratie fonctionne ». Donc oui, je pense qu'il y a une... On a senti à la fin une certaine colère de la part de certains, de la déception chez d'autres, mais heureusement, ils sont combatifs et cette association créée, les 150... Il y a un autre site qui s'appelle Sans Filtre aussi, qui suit l'évolution des propositions. Je veux dire, quand on a fait un travail aussi profond et qu'on y a mis vraiment toutes ses tripes, c'est normal qu'on veuille le défendre et qu'on veuille être pris au sérieux.
Sophie Nouchet, Mathieu Sanchez, restez avec nous. On poursuit nos échanges dans quelques instants.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM. Nous poursuivons nos échanges avec mes invités Sophie Nouchet, co-autrice du livre Cap 2030, une décennie pour changer le monde et journaliste indépendante, et Mathieu Sanchez, l'un des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, bien évidemment, on était en train de parler, donc, une fois de plus, de cette Convention citoyenne pour le climat, des lobbies et finalement de ces citoyens face à un système qui les dépasse très, très largement. Sophie Nouchet, votre livre sort avant le référendum sur l'environnement proposé par Emmanuel Macron, qui devrait avoir lieu en 2021. Est-ce que, une fois de plus, cette temporalité de sortie de votre livre a un lien ou pas avec ce référendum ?
Pas spécialement. Nous, on a voulu mettre en lumière les travaux de la Convention citoyenne. Voilà, donc notre livre est sorti peu après la fin de cette convention. Emmanuel Macron a annoncé le référendum après, par la suite, mais tout ce qui peut faire parler de la convention et mettre en lumière ses travaux et continuer à alimenter les débats est positif.
Mathieu Sanchez, quelle est pour vous, et évidemment les conventionnels, la suite du programme ? Quelles sont les prochaines échéances ?
Là, il y a le texte de loi qui va être présenté à l'Assemblée. Ensuite, nous, on a encore une session, justement, pour faire un peu le bilan. Ça aura lieu au CESE. On a encore une session de bilan qui aura lieu juste après la présentation du projet de loi pour faire justement un petit peu le point, mesure par mesure, de ce qui a été vraiment transmis sans filtre, ce qui a été retouché et, comme je le disais tout à l'heure, aussi sur les mesures qui, pour l'instant, n'ont pas été traitées. Pour voir un petit peu quel avenir est prévu pour ces mesures-là, et puis continuer de défendre. Après, il y aura tout un travail autour du référendum pour justement un petit peu faire de la pédagogie autour de ce référendum. On essaye aussi de voir ça au niveau des collèges et des lycées pour impliquer les jeunes, puisque nous, on a eu l'opportunité de voir l'évolution on avait des jeunes entre 16 et 22 ans aussi, qui étaient présents sur la convention, et on s'est rendu compte que avec le même socle d'informations, ils étaient plus qu'en capacité de s'emparer des débats. Donc on essaye aussi du coup de mobiliser l'association autour de ce travail de pédagogie auprès des jeunes et de la population en général.
Sophie Nouchet, vous le dites dans le titre de votre livre, on n'a pas la vie devant nous pour changer les choses, on a une décennie pour changer le monde. Si par chance ce matin des décideurs politiques et des décideurs d'ailleurs économiques également nous entendent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire par rapport à cette urgence climatique ?
J'aurais envie de leur dire une phrase de Thierry Pêche, en fait, l'un des co-présidents, qu'il a répété plusieurs fois pendant la convention. Il a dit le climat et la démocratie se sauveront ensemble. Donc j'aurais envie de leur dire, prenez en compte le travail de ces citoyens, prenez en compte le fonctionnement des assemblées participatives et collaboratives dans un pays où l'abstention crève le plafond à chaque élection, d'un pays aux institutions vieillissantes qui ont besoin d'être renouvelées, donner la parole et donner du pouvoir à des citoyens, c'est une solution. C'est une solution pour sauver notre démocratie, lui redonner de l'énergie, et c'est une solution aussi pour répondre aux urgences climatiques auxquelles nous devons faire face. Et les solutions, elles sont dans le rapport. Alors lisez-le et acceptez de bouger un peu les lignes, de sortir de vos zones de confort.
Mathieu Sanchez, est-ce que vous avez un petit message à leur faire passer également ?
Ben moi, je dirais courage, courage politique, courage économique. Il va falloir en faire preuve. Les secteurs économiques qu'on essaye de maintenir dans un ancien système, malheureusement, vont arriver à bout de souffle et il va falloir les faire évoluer au risque que ce soit encore des employés, donc des citoyens qui subissent les conséquences de tout ça. Donc je pense sincèrement que d'un point de vue économique, l'intelligence voudrait que on commence à faire évoluer les pratiques. Les pays qui vont réussir à le faire auront très certainement la main mise sur énormément de secteurs. J'espère que nous, on sera en capacité de faire évoluer tout ça. Et pareil, courage politique, parce qu'effectivement, c'est pas simple d'aller à contre-courant, d'aller au front contre les lobbies. Malheureusement, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à faire avancer les choses. Et oui, effectivement, le trait d'union que représente la participation citoyenne, je pense, va devenir indispensable si on veut réussir à sauver un peu la démocratie.
Sophie Nouchet, Mathieu Sanchez, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions ce matin. Restez avec nous puisque nous allons maintenant accueillir Florent Manelli. Bonjour Florent.
Bonjour.
Comment ça va ce matin Florent ?
Ça va très bien, bonne année.
Bonne année. Alors je rappelle que vous êtes responsable du fundraising à la Fondation Good Planet, illustrateur et auteur du tome 1 et du tome 2 de 40 LGBT+ qui ont changé le monde aux éditions Lapin. Courez les acheter, ils sont magnifiques et extrêmement agréables à lire. Alors Florent, ce matin, vous allez nous parler de Jane Goodall, entre autres. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Jane Goodall ?
Et oui, et comme à chaque fois qu'on se voit, je vous parle d'une femme qui a agi en faveur de l'écologie, de la biodiversité, du vivant. Et ce matin, je vous parle de Jane Goodall, qui est née en 1934 à Londres et qui, à l'âge de 23 ans, a rencontré le docteur Louis Leakey, un archéologue et paléontologue célèbre, avec qui elle est, dont elle est devenue par la suite sa secrétaire après avoir été invitée au Kenya par une amie. Passionnée depuis sa jeunesse par les animaux, elle décide en 1960 de vivre seule parmi eux, pour mieux les observer et les comprendre. Elle s'installe donc en Tanzanie, dans ce qui est aujourd'hui le parc national de Gombe Stream, pour y étudier les chimpanzés. Alors Jane Goodall commence ce qui sera la plus longue étude de terrain menée sur les animaux sauvages vivant dans leur environnement naturel, et y fait de nombreuses découvertes. À ses débuts, elle ne pouvait approcher qu'à 500 mètres maximum les chimpanzés, ensuite ça a été 30 mètres, et un an plus tard, c'est après deux longues années teintées de patience et d'optimisme qu'elle fut enfin acceptée, qu'elle put créer un contact avec eux. Alors comment est-ce qu'elle s'y prenait ? Chaque matin, elle se levait tôt pour aller donner, toujours à la même heure, une banane à chaque chimpanzé. Elle note ainsi toutes ses observations dans des carnets et passe des heures dans les arbres munis de ses jumelles. Sans diplôme et formation, son approche du monde animal est très différente de celle des spécialistes. Elle donne par exemple des noms à chaque chimpanzé, ce qui laisse place à de nombreuses critiques de la part des spécialistes. Mais grâce à ses recherches, on sait maintenant que les chimpanzés sont biologiquement semblables aux humains, qu'ils démontrent de nombreuses capacités intellectuelles, qu'ils chassent pour se procurer de la viande, qu'ils utilisent des outils et que les membres d'une même famille maintiennent des liens forts et durables, et ce durant toute leur vie. Encouragée par Louis Leakey, elle réalise un parcours doctoral et soutient en 1965 sa thèse de doctorat en éthologie. Pendant les années qui suivent, ses travaux continuent à profondément transformer la manière de voir les primates, alors aussi bien les singes que les hommes. Et aujourd'hui, Jane Goodall se donne pour mission essentielle d'alerter l'opinion publique des dangers qu'encourt notre planète et de faire évoluer les comportements individuels vers une meilleure prise de conscience de l'environnement. Elle a ainsi créé l'Institut Jane Goodall en 1977 afin de promouvoir la recherche, l'éducation et la préservation de la faune.
Bon bah je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, mais moi personnellement, je viens d'apprendre plein de choses. Alors vous allez également nous parler de bande dessinée ce matin, Florent.
À quoi va ressembler notre vie après le confinement ? Eh bien, si on se pose cette question fréquemment, on sait néanmoins une chose, c'est que notre besoin de reconnexion à la nature, au sol, au vivant, n'a jamais été aussi nécessaire. Et ce matin, je voulais vous parler de L'Oasis, de Simon Hureau, une bande dessinée publiée aux éditions d'Argo, dans laquelle l'auteur raconte comment il a peu à peu redonné vie à son jardin abandonné à la friche par son ancien propriétaire. L'histoire s'étale sur les 10 années d'installation de l'auteur dans sa nouvelle maison à la campagne, et nous le suivons dans ses questionnements et ses découvertes. Alors on sait les vertus thérapeutiques du jardinage, mais ce qu'il y a d'encore plus beau dans cette BD à l'approche pédagogique, c'est la question de l'appropriation de l'espace dans lequel nous vivons, la manière dont nous devons composer avec nos lieux de vie, et la nécessité en tant qu'être humain de rester à notre juste place, et je sais que c'est un petit peu compliqué. Le jardin de Simon Hureau est également une jolie métaphore de nos vies, car nous possédons tous un petit jardin intérieur dont nous devons prendre soin. Cette bande dessinée devrait vous donner l'impression d'avoir passé une journée au grand air, et vous permettre de rêver d'une autre vie après le confinement.
Comme c'est poétique. Et vous allez enfin, Florent, nous parler de Tadam, je ne sais pas si je le dis bien, le dernier podcast de la Fondation Good Planet.
Et oui, Tadam, c'est le nouveau podcast de la Fondation Good Planet. Et si je prends ce ton si enjoué, c'est simplement parce qu'il y a 5 A entre le D et le M. Deux fois par mois dans ce podcast pour les enfants, les équipes de la Fondation Good Planet racontent les grandes idées qui sauvent la planète. Le premier épisode nous explique comment Charles Brouche a inventé l'éolienne. Alors, il y en a un deuxième qui est sorti, mais n'attendez plus, connectez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour faire découvrir à vos enfants, mais aussi aux plus grands, les inventions qui ont changé notre rapport au monde. Et ça tombe bien que je vous en parle ce matin, puisque le dernier épisode est sorti ce lundi.
Merci infiniment Florent Manelli, merci encore Sophie Nouchet et Mathieu Sanchez d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée sur Vivre FM. Quant à nous, on se retrouve même jour, même heure dans 2 semaines.